bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Ça y est, bien fini, est parti.
Ah bah déjà, ok. Et oui.
Original, oui, 11h 4 minutes, soyez les bienvenus.
Bonjour à tous.
Avec Leïla Kadoboudadi, Jérémy Rouvi, Tom Villa, Daniel Morin. Et tout à l'heure, Tanguy Passuro, nos salut. Invités salut. Sont Lou Delage, Anne Fontaine et Jonathan Fay. Ah, c'est vrai que quand il y a une brochette comme ça de réalisatrices et de comédiens, on est ravis de vous accueillir dans ce film qui sortira ce mercredi, avec également Isabelle Huppert, Charles Berling, Damien Bonnard, deux fois, j'ai envie de dire, puisque ouais. Il réalise la prouesse de jouer deux personnages. J'ai attendu le générique de fin pour savoir, je me dis, mais c'est pas possible, il y a quand même pas deux mecs qui se ressemblent autant dans le cinéma français.
Il a une doublure pourtant, j'ai vu.
Mais. Ah, une
doublure pour
certains trucages.
Oui, mais oui, non, pour les amours. Ouais, j'imagine. Ouais,
pour les amorces, c'est ça. Voilà un mot tout à fait justifié.
C'est un mot très cinéma, bravo.
Et très technique et très pointu.
J'ai fait la fémis, moi, monsieur.
Ah, bah écoutez.
Enfin, je suis passé devant.
Oui, c'est ça.
Je peux être marrer.
Fumiste. Hein.
Et tout repose sur vous, Lou Delage. Vous êtes la blanche comme neige, la claire, pour reprendre le nom de votre personnage. C'est votre combienième film, toutes les deux?
Deuxième.
Et vous saviez qu'elle n'avait pas pensé à vous pour.
Oui, je savais tout déjà.
Racontez-nous alors comment c'est passé.
Bah, ça s'est passé qu'on est partis déjà ensemble au Japon. C'est la fois où on s'est revus sur un festival de cinéma pour Les Innocentes, le film qu'on avait fait ensemble avant.
Ouais. Et vous savez à quoi ça s'est joué? À quel détail physique ou
l'impertinence, selon Anne Fontaine, de ce moment-là où elle m'a vue habillée
en jupe,
en robe, en étant féminine et visiblement ce que je ne contrôlais pas sur le moment, c'est-à-dire tu avais quelque chose d'impertinent.
Voilà. Et c'est à ce moment-là que vous avez dit, c'est je tiens ma blanche neige entre guillemets.
Ben, je me suis dit pourquoi je n'ai pas été vers elle. Donc j'ai eu une sorte de mélancolie forte. Et ensuite, ça a travaillé dans ma tête, jusqu'au jour où je l'ai retrouvée dans un café parisien, un bar d'hôtel d'ailleurs. Et là, elle est arrivée avec une évidence. Elle est venue me dire bonjour. Et dans la journée, je lui ai passé le scénario.
C'est incroyable, c'est joli d'entendre ces moments-là. C'est-à-dire que on entend toujours parler de la part des acteurs, des actrices de désir, du regard de l'autre, de la manière dont on pourrait, certains acteurs ou actrices rêveraient de tourner avec tel ou tel réalisateur ou réalisatrice. Et là, en l'occurrence, vous l'aviez entre guillemets sous les yeux, à portée de main. Vous aviez déjà joué et tourné avec elle, et vous aviez encore besoin d'une évidence.
Ben, dans Les Innocentes, elle faisait un médecin assez austère.
C'était un rôle. C'était un rôle.
Oui, c'est un rôle, mais je l'avais pas vue de cette façon-là. Tout d'un coup, elle m'est apparue comme quelqu'un d'une grande sensualité. Ce que vous vouliez
pour Blanche comme neige. Vous
voilà,
aviez
une
besoin.
Pureté, une innocence et en même temps une sensualité et puis surtout qu'elle soit drôle. Elle est drôle.
Dis comme ça,
tu vas nous faire rire.
Tout de suite.
Elle est drôle, là. Allez, c'est une blague.
C'est tout pour moi, merci Paris. Lou Delage avec Jonathan Cohen. Alors le problème de Jonathan Cohen, c'est, il paraît que vous n'arrêtez pas de la faire rire justement sur les tournages et que c'était.
C'est ce que tu as dit. Ouais. Rire et pleurer parfois.
Ah bah non,
parfois.
c'est ce que Lou a dit.
Oui, c'est ce que toute l'équipe pourrait dire. Parce que quand il soigne des chiens, le chien de Vincent Macaigne.
Car
il est vétérinaire. Un peu dépressif.
Complètement dépressif.
Oui. Assez dépressif. Un grand amoureux en voie de réparation. Donc évidemment, il a une vie solitaire avec cet emploi de vétérinaire. Et il est irrésistible, comme tous les gens...
Ah mais comme tous ceux que vous avez dirigés, parce que pardon, au-delà des qualités du talent de Jonathan Cohen, Vincent Macaigne, Benoît Poulvord en libraire pervers, mais tellement drôle aussi.
Adorable.
Il y a une scène qu'on peut dévoiler, puisqu'elle est dans la bande-annonce, où il se fait fouetter, qui est extrêmement drôle.
Cravache.
Oui, même la cravache.
C'est une cravache dans une petite bouquinerie dans le Vercors, et il est un peu azimuté, il est... perché, C'est tous des hommes qui ont quelque chose de fragile et en même temps d'émouvant parce qu'ils sont fragiles, justement.
Ouais, la plus fragile au début, quand même, c'est Claire. On a un peu peur pour elle. On ne sait pas trop quel va être son destin. Il y a donc, c'est vraiment le conte des frères Grimm revisité. Il y a en effet Claire, qui est donc blanche comme neige et qui est l'héroïne de ce film. La marâtre, jouée par Isabelle Huppert. Le beau-père étant Charles Berling. Et puis, non pas sept nains, mais cet homme voler ou convoler autour d'elle avec des aventures plus ou moins platoniques, plus ou moins concrètes, mais qui vont faire naître en tout cas ses désirs, ses fantasmes. Elle a envie de changer la petite fille sage qu'elle était avant. Il va y avoir un déclic et elle va se découvrir.
Elle se découvre,
tout à fait. Vous parlez bien.
Il est français.
Et vous êtes drôle.
Il est impertinent.
Non, c'est l'émancipation d'une jeune femme à travers... Il y a évidemment le côté ludique du rapport au conte, puisqu'il y a des pommes, des miroirs, le noir, le rouge, des écureuils, des animaux, un paysage magnifique. Et puis, il y a ces sept personnages masculins qui sont tous un peu aux abois, et qu'elle va révéler à eux-mêmes, tout en étant aussi elle-même, finalement, petit à petit, dans un roman d'apprentissage et de découverte d'une vie où on ne choisit pas un seul prince charmant.
Oui, on découvre le désir, on le ressent et on l'expérimente.
On va en parler un peu plus longuement de ce film. D'abord, des questions concernant Lou Delage, Anne Fontaine et Jonathan Cohen. On va commencer... Par Lou, pour sa maman, il était important que Lou puisse de temps en temps faire quoi ?
De l'équitation ?
Non.
Passer des coups de
fil ? Un sport ?
Non.
Être
non,
dehors sport, en plein
voir
air ?
Voir sa famille ?
Non.
Lire, dormir,
non.
Se reposer ?
Siester ?
Non. Rester à la
jouer.
Maison ?
Non.
Rien
je
faire ?
Oui ! Exactement. Ah ouais. S'ennuyer. Elle voulait que vous vous ennuyiez, parce que peut-être c'était place à l'imaginaire, c'est
oublier.
Ça ?
J'avais oublié que j'avais dit ça.
Ma mère était heureuse quand l'ennui se pointait.
Bah, c'est plus quand on s'ennuyait enfant. Elle nous disait toujours, c'est très bon, continue, parce qu'en réalité, il y a mille choses à faire. Donc
imagine des choses et rêves.
C'est ça.
Ouais. Et dans ces cas-là, on fait quoi ? Est-ce qu'on se crée des situations avec des personnages, avec des Legos, avec des poupées, que sais-je ? Ou est-ce qu'on se met à lire ? Est-ce qu'on s'évade ?
Bah, on peut faire plein de choses, parce que nous, on habitait au milieu de la campagne.
À Montendre, c'est vrai qu'on peut s'ennuyer.
Au milieu des champs, donc on est obligé d'inventer. Donc oui, et puis on peut inventer plein de choses, en réalité. J'avais mon frère avec qui on a construit beaucoup d'histoires.
Vous étiez complice. Que faisait le papa d'Anne Fontaine à Lisbonne ?
Il était portugais.
Il était
portugais, je portais un
peu. Très beau métier.
Il vendait des trucs ?
Non.
Son métier ?
Ouais. Il s'est installé pendant longtemps.
Mais ils ont déménagé là-bas, c'est ça hein,
oui,
dans
mais
l'histoire
que faisait-il
familiale.
Libraire ? Métier artistique, non.
Ah, peintre. Chef d'orchestre.
Non.
Dans la musique ?
Oui, dans la musique, mais quoi ?
Il était contrebassiste.
Violoniste. Instrumentiste. Chanteur.
Contrebassiste.
Il jouait d'un instrument de façon professionnelle.
Oui.
Trombone.
La guitare. Trompette.
Mais non, mais dans un lieu.
Le triangle.
Exactement. L'orgue. Il était organiste à la cathédrale.
À la cathédrale de Lisbonne.
Alors là, quand vous alliez de temps en temps l'entendre jouer,
bah,
souvent
de temps en temps, tout le temps.
Tout le temps, d'accord.
J'ai passé mon enfance dans les églises, puisque un orgue, c'est souvent dans les églises.
Oui.
Et il a commencé...
Si on l'a en bretelle autour de soi, ça s'appelle un accordéon, ça n'a rien à voir.
Il a commencé à 21 ans à être organiste de la Madeleine, puis au Luxembourg. Puis ensuite à Lisbonne.
Mais pardon, avec le lieu et le regard de la petite fille pour son papa, on idéalise son père. Ben, je sais pas, on dit que c'est Dieu, quoi. C'est-à-dire qu'on a quel genre d'image a-t-on ?
Je sais pas si on se dit que c'est Dieu. On écoute de l'orgue et l'orgue, c'est un instrument envahissant. Hein. C'est pas un petit instrument comme ça dans un coin. Donc souvent, j'en avais marre.
Et puis pas une grasse matin dimanche matin. Ça va,
je jouais de la guitare, ce que mon père trouvait vraiment un sous-instrument parce que
encore vous avez pu faire guimbarde. Hein, vous avez été gentil avec lui.
J'ai fait du luth.
Ah bah voilà.
Il y a beaucoup de cordes.
Très bien. Comment Florence,
c'est génial.
Comment Florence Foresti explique-t-elle le talent de Jonathan Cohen?
Elle ne se l'explique pas.
Sa capacité d'impro incroyable.
Non, justement, c'est parce qu'il ne sait pas apprendre de texte.
Non.
Son naturel, il sait tout jouer parce qu'il non,
elle dit
fou.
S'il a autant de talent, c'est que ça doit venir de quelque chose dans son enfance. Voilà.
Il était seul. Il était malheureux.
Et voilà. Il a une belle enfance résumée, bravo.
Pardon, j'adore.
Et en même temps, d'une grande sensualité.
Comment?
Une grande sensualité, en
absolument.
Même temps.
Absolument.
Elle dit... Il a dû passer beaucoup de temps seul dans sa chambre.
C'est vrai. Bah, étant fils unique, toujours aujourd'hui, absolument, hein, je suis toujours seul. Non, mais étant fils unique, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à m'amuser seul avec mes jouets, à me faire mes petits scénarios, comme on dit.
Et le cher Mito, et le plaisir des mots, pas forcément le jeu de mots au sens Raymond Devos du terme, mais le plaisir de la langue française.
C'est vrai, le plaisir d'en inventer, le plaisir d'essayer de chercher le petit mot qui va faire rire, en fait. En le creusant, en fait. Pas étant dans le...
Ça vient de quoi? De la bande dessinée de genre, je pense à Gottlieb ou la rubrique Abrac, et ce genre d'humour vous parle ou non?
Oui, même si je suis un peu passé à côté. J'ai découvert ça beaucoup plus tard que quand ça existait. Mais c'est Chopin, c'est plus le cinéma. Le cinéma, parce que moi, mon père était assez cinéphile, et du coup, j'ai eu accès à, tu vois... Film de Lautner.
Fait gaffe, quand vous reniflez, ça passe aussi à l'antenne.
Ouais, c'est vrai. Excusez-moi. Ouais, c'est pour ça que je parle pas trop aujourd'hui, exceptionnellement, c'est pour pas perturber
faites des
les
gestes.
Gens.
Faites des gestes.
Alors, je vais parler au mieux. Non, mais il y a beaucoup de sourds qui nous entendent.
Donc Lautner, tout ça.
Oui, voilà, c'est ça.
Là, ouais, je suis là.
Merci d'avoir ressenti que ça pouvait partir là-bas.
Sur le projecteur.
Et voilà, et Gabin, toute cette langue, et donc j'ai toujours aimer les mots qui sonnaient et qui est voilà percutant.
Et vous parlez beaucoup de cinéma français, rien en termes de films anglo-saxons.
Mais j'ai été élevé à ça et après la deuxième partie de mon adolescence, ça a été très américain.
Plus que Monty Python, ça a été plus Dumb and Dumbers.
Dumb and Dumbers, ça a été surtout les films d'action, L'Arme fatale, les trucs comme ça. Okay. Oui, j'ai été élevé à ça, vraiment à partir de 12-13 ans. Suis dans le film d'action en termes de cinéma.
Ok, d'accord. Voilà. Pouvez-vous finir, s'il vous plaît, la phrase que Lou Delage a entendue, dite par un professeur de danse? Je vous donne la phrase.
À son propos?
Oui. Tu sais, Lou. Tu vois, je fais bien là, ça prend.
C'est bien fait. Hein.
C'est agressif. C'est passif-agressif.
Lou, dans la vie, des gens mieux que toi ou moins bien que toi, il y en aura toujours. Mais des gens comme toi,
jamais.
Il n'y en aura jamais.
Bon, ça va.
Oh, ça va.
Ouais. N'oubliez pas les paroles, c'est le premier stade. Ouais,
c'est
le.
C'est 10 points.
C'est en une brique.
Ouais.
Là, je suis à deux doigts de renoncer à ce point, d'ailleurs. Ouais. Mais je le prends quand même
parce que c'est toi.
Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Est-ce que elle voulait dire que vous étiez exceptionnel à ses yeux et elle vous encourageait?
L'inverse.
Ah, c'était plutôt mignon.
Mais ni l'un ni l'autre. Elle voulait juste dire que ça ne sert à rien de jalouser et ça ne sert à rien de rabaisser. Étant donné qu'on est chacun, on est unique avec nos défauts et nos qualités.
Donc là, on rejoint quoi Voltaire, cultive ton jardin, c'est ça
On rejoint ma prof de danse qui m'a dit ça quand j'avais 12 ans. Ce sont des phrases simples, mais qui, je pense,
restent.
Ouais. Ouais. Cultiver ses défauts aussi, c'est une phrase qu'on peut entendre. Je me souviens c'était Yannick Noah qui avait expliqué sur son jeu au tennis qu'un prof, que toute la différence venait.
Encore une grande plume.
En tout cas, des personnes qui se sont dépassées, et qui, justement, plutôt que de rectifier des gestes au tennis, cultivaient les défauts. Ils disaient, tu as ce défaut-là, bah, continue, au contraire, cultive ce défaut-là. Ça fait pas du tout partie de la culture du prof de danse, j'imagine.
Du tennis, oui.
Ouais, peut-être plus du tennis. Non.
Quand même, si, parce qu'on apprend une technique à la danse, mais après, tout l'intérêt, c'est de réussir à danser, justement. Et pour danser et pour atteindre une manière de faire qui ne ressemble pas à tout le monde, il faut faire à travers soi. Il faut réaliser à travers son geste. Et on peut faire ça avec de la technique.
Et en quoi la danse vous a été utile pour le métier d'actrice?
Parce que je pense que c'est quelque chose qui structure, qui amène de la rigueur, qui donne une conscience du travail, de l'effort, de tout ça.
C'était
quand
elle
danse
avec
Isabelle Huppert. Oui. Vous avez vu comment elle danse avec Isabelle Huppert?
Elle est bourrée. Alors.
Je n'étais pas du tout.
C'est du jeu.
Elle joue.
C'est
honteux.
Ça veut dire que c'est bien fait, s'il l'a cru. C'est que c'est bien fait. Voilà.
Elle a une façon de danser qui est très...
moderne.
Oui.
C'est voilà, du moderne jazz
contemporaine. Voilà.
On est dans le Pina Bausch.
Oui, oui, c'est du Pina Bausch.
Exactement ça.
Régiment Pina Bausch.
Comment Anne Fontaine a réagi après avoir eu une dispute avec Michel Bouquet pendant le tournage de Comment j'ai tué mon père?
Elle a rigolé.
Elle a giflé.
Non.
Elle a pleuré.
Non. Elle lui a pu parler pendant longtemps.
Ah, il y a eu quelques moments de silence, ouais.
Elle a boudé? Non.
Ouais, mais comment?
Elle a fait vœu de silence pendant une semaine.
Non.
Elle a oublié. Elle a fait de l'or.
C'est quoi la question?
La question, c'est qu'elle s'est disputée avec Michel Bouquet sur tournage. Comment a-t-elle réagi?
Elle lui a écrit une lettre?
Non.
Elle a fait un procès?
Non.
Elle l'a invitée à dîner?
Non. Elle a
rayé du film.
Elle parlait sur ses répliques?
Non.
Non.
Elle s'est fâchée avec lui.
Oui.
Elle a appelé.
Non, c'était une dispute entre les. Entre
elle a rayé sa bagnole.
Et elle a, elle a réagi à tel point que.
Qu'il y a eu un truc.
Que Michel Bouquet est revenu et que limite il s'est excusé. Ouais.
Pleurer
Non.
Pas pleurer, c'est rien.
Crier fort, frapper
Non.
Il y a eu quelque chose de physique?
Oui.
Il a tué son chien.
Regardez, je fais un geste.
Brûler sa maison.
Elle lui a pris les testicules. Non.
Non.
Waouh. Attention, attention.
Vous ne comprenez pas ce geste?
Ah, il s'est chié dessus.
Vous l'avez senti?
Non,
mais attends.
Oh.
Non, c'est...
Mais qui dit ça?
C'est Jonathan.
C'est pas moi qui dis ça.
Je ne le connais pas. Je ne le connais plus.
Non, c'est pas moi.
Alors, c'est un mot qui commence par...
Il s'est liquéfié. Non, on va le dire. Vous êtes évanoui.
Évanoui.
Ah bon?
Ah oui.
Et ça, c'était évanoui.
Ça vous impressionne.
Ah oui.
Devant quand même le grand maître du théâtre, le père spirituel. Et j'étais dans un tel état de tension que je suis tombée devant lui. Il avait déjà un âge quand même assez avancé. Mmh. Il a été impressionné par...
C'était une feinte ou vous êtes vraiment évanoui?
Non, a fait venir un médecin qui a dit qu'il faut qu'elle s'arrête de tourner parce qu'elle est en état de trop grande épuisement.
Trop grand stress.
Et en fait, c'était pas qu'il était fâché, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à faire la scène et ça faisait 20 prises que je lui faisais faire et je n'arrivais pas à trouver la solution. Donc, à un moment donné, il s'est mis dans un état de fureur contre lui-même. Et comme j'ai été complètement perdue, ça m'est plus arrivé depuis.
Et il est revenu. Il est revenu.
On réfléchit bien. Ça m'est arrivé de pleurer, mais pas de m'évanouir.
Et il est revenu, vous réconforter. Parce que il s'est senti un peu responsable.
Oui, mais après, ça a été un amour, mais incroyable.
Il suffit de s'évanouir une fois.
Ouais. Ça marche quand même.
Et c'est vrai qu'il vous a dit que vous étiez trop sensible.
Mais je fais ça avec Nagui,
il m'a dit que j'étais archi sensible. Je lui ai dit oui, évidemment. Mm. Je n'ai pas démenti cette phrase. Mais ça a créé un rapport d'envoûtement après. C'était comme s'il me regardait sans arrêt, comme si j'allais tout d'un coup retomber.
Non, mais d'autant que Michel Bouquet a enseigné, a transmis, a eu des élèves. Donc, j'imagine qu'il a bien dû se remettre dans la situation de quelqu'un qu'il fallait plus soutenir.
Il jouait mon père.
Comment j'ai tué mon père? C'est pour ce tournage.
Il jouait mon père. Donc, on avait un rapport quand même très particulier.
Justement, tiens, à propos du concours, cette fois-ci du conservatoire, devant Daniel Mesguich, quand ce dernier demande à Jonathan Cohen d'allonger les féminines et d'appuyer les masculines, que fait Jonathan Cohen?
Il va dans le public.
Non.
Ça va me faire rire, je pense.
Ça va me faire rire.
Que fait Jonathan Cohen?
Allonger les féminines, appuyer les masculines.
Pour les rimes.
Que dit Jonathan Cohen?
Oui, absolument.
Qu'est-ce qu'il dit qu'il ne sait pas faire la différence, il inverse, qu'est-ce qu'il peut faire
c'est
encore
pas, il est non-genré
il ne prononce pas, il fait des syncopes à la fin de chaque vers.
Il lui parle des féminines, il lui parle des masculines, que lui répond Jonathan Cohen?
Les femelles.
Je ne les connais pas.
Exactement.
Non, c'est pas ça, je vais...
Tu lui dis, mais de quoi vous parlez?
Je lui dis, excusez-moi, moi je sais que ça va jusqu'à 12, après il ne faut plus me parler. Parce qu'il y a 12 pieds, et donc voilà, je savais juste ça, après tout ce qui était féminine, masculine. Moi, je venais de commencer à faire du théâtre. C'était tout neuf, tout récent, et j'ai passé le concours. Donc, du coup, j'étais.
Vous reniflez, ça passe à l'antenne. Quand vous reniflez, ça passe à l'antenne.
Ouais, c'est vrai. Et c'est la deuxième fois que vous me le dites.
Oui, mais c'est la deuxième fois que vous le faites.
Troisième, cinq coups de boule.
J'enregistre pas tout de suite.
Donc, il y a 12 pieds.
Et voilà.
C'est mon rôle, moi, aujourd'hui.
Les vers de 12 pieds. Donc, du coup, effectivement, il y a les féminines, les masculines, la diresse, tout ça, que des choses techniques.
Expliquez-nous ce que sont les féminines et les masculines.
Alors, je sais plus. Tout simplement. Je crois que non, je sais plus ce que j'ai oublié. Mais c'est vrai que d'ailleurs, j'ai oublié.
Ok, pardon, non, c'est pas.
Non, il y a pas de pièce. C'est la curiosité de ma part. Je me sens pas absolument pas mal à l'aise.
Personne peut m'aider, Anne, Lou, non.
Non, personne. Non, non. Non, mais faut être un peu Daniel Besguich, hein, ou être au français pour parler des féminines, des masculines.
Mais c'est pas tant à l'intérieur du vers.
Si, c'est à l'intérieur du vers, effectivement.
Des syllabes, vous êtes sûr?
Oui, c'est ça. Non, c'est sûr, c'est sûr. Faut allonger. On peut allonger, surtout lui dans son style.
Est-ce que les féminines sont les voyelles et les masculines les consonnes?
Non, c'est pas ça.
Non, je pense
pas. Okay. Ben, en tout cas, c'est un très bon quiz.
On va chercher.
On a perdu.
Non, je sais plus ce que c'est, mais effectivement, je savais que ça allait jusqu'à 12 pieds. Voilà.
Blanche comme neige. Donc, le film sort demain au cinéma où il y a un regard que vous portez sur Lou Delage et on comprend après ce que vous avez raconté tout à l'heure qu'il fallait qu'il y ait un désir de votre part parce que vous la rendez extrêmement désirable.
C'est pas extrêmement difficile.
C'est vrai.
Elle a une cinégénie, Lou, incroyable. Et ça, la cinégénie, c'est quelque chose de mystérieux. On ne sait pas comment un visage va s'incarner à l'écran. Et puis, je crois qu'on s'est vraiment amusé au sens profond du terme à jouer cette Claire qui va être petit à petit délurée et qui va aller vers un vent de liberté et qui est joyeuse. Il y a quelque chose de vraiment joyeux. Donc, c'était vraiment gai de faire ce film avec
comment
elle.
Comment vous décririez votre personnage, Lou Delage? C'est une fille perdue ou une fille qui finit par être consciente de son capital
non,
séduction?
Elle n'est pas perdue. Non, pour moi, c'est une fille qui est éteinte.
Elle est un peu perdue dans la forêt au début.
Il y a un moment, elle est perdue. Mais non, mais pour moi, c'est pas quelqu'un à la base qui est, parce que vous disiez sage tout à l'heure ou quoi, mais c'est même pas ça pour moi. C'est vraiment que c'est quelqu'un qui est complètement éteint, qui est complètement déconnecté de tout désir et de tout plaisir de vie. Et qui va, grâce à un choc, finalement, et à des rencontres, se reconnecter à elle-même et se reconnecter finalement à ce qui est fondamental pour aussi être heureux d'être sur Terre.
Elle est une sorte de page blanche, c'est ce qui est dit de mémoire dans le film, c'est-à-dire que elle a besoin de
s'écrire. Elle s'invente. On rencontre cette femme au moment où elle est en train de s'inventer, où elle est en train de décider qui elle a envie de devenir. Et pour moi, il n'y a pas de calcul dans tout ça, il n'y a pas de...
Oui, il n'y a même pas d'appréhension, alors qu'elle aurait toutes les bonnes raisons de s'inquiéter.
Non, on est dans un conte, c'est là où on est aussi dans un conte.
Bah, elle sursaute quand même quand elle croise des motos, donc elle est pas totalement détendue non plus, mais elle a confiance.
Voilà,
elle va vers les autres.
Presque d'insouciance. Elle se laisse aller à ce qui lui est proposé, et surtout, je pense qu'elle elle arrête de, comme on peut avoir tendance à faire dans la vie, d'être complètement tournée vers soi, pour chercher une source de joie. Parfois, c'est finalement en regardant vers l'extérieur et en étant curieux de ce qu'il y a autour qu'on se rencontre mieux.
Et le vétérinaire qui est...
Oui, enchanté.
Qui est pas...
il est là.
C'est une tique.
Un problème avec un animal?
Il a eu un coup dur.
Oui, j'ai eu
par
un
le
sacré
passé.
Coup dur. J'ai eu une blessure qui a du mal à se refermer. Et là où je pensais que c'en était fini de tout ça, elle arrive... Dans ma vie, elle bouleverse tout, elle réouvre tout. Ce qui fait que je suis...
Ouais, elle arrive dans la vie de plusieurs hommes à la fois.
Oui, mais moi, je ne les vois pas, ces hommes. Bah, je n'ai pas envie de les voir. Bah, de les imaginer.
C'est un jaloux.
Voilà. Assumer.
Possessif.
Assumer, oui. au point de se battre pour elle, quoi. Il est prêt.
Au point de se battre, oui.
Avec un violoncelliste.
Et peut-être même de tuer, oui. Oui, je suis borderline.
Il se bat avec un violoncelliste, ce qui est quand même...
C'est honteux.
Avec Vincent McCain.
Surtout Vincent McCain.
Je peux vous dire que c'est pas le dernier à se battre.
Et il se bat avec son client, en plus. Il se bat avec...
Oui, avec un de ses clients, voilà, exactement, oui. Mais oui, parce qu'elle fait tourner la tête quand même de tout ce village, de tous ces hommes.
Comment? Je veux dire, quand vous reniflez, ça passe à l'entrée.
C'est fou. Alors, c'est la troisième fois que vous me le dites. Comme quoi, vraiment, là, j'imprime.
Une petite boîte de mouchoirs.
Avec un mini Alzheimer pour jouer. Alors écoutez, bonjour.
Et donc,
Georges Leclerc, on est sur un troisième
rôle. Il a un rôle qui est sur l'émotion, bizarrement. Quand on l'entend comme ça, on se dit c'est impossible.
Et en fait, Anne va au bout.
Et il est... Il est peut-être le plus fragile de tous.
Le plus
absolument.
Fragile, drôle, mais en même temps... complètement fragile,
oui,
il faut dire.
C'est vrai,
surtout
fragile.
Quand il est regardé par des écureuils.
Et surtout par toi. Enchanté.
Le film s'appelle Blanche comme neige, le nouveau film d'Anne Fontaine, et c'est un succès annoncé, Tom Villa.
Bah oui, enfin, c'est une histoire qui a déjà fait ses preuves, donc a priori c'est bien parti. Je rappelle l'histoire donc de Blanche comme neige, c'est le Blanche-Neige de notre enfance, mais version 2019. Blanche-Neige s'appelle Claire, les sept nains c'est fini, c'est sept mecs au fin fond d'un petit village. Bah, la crise est passée par là, aïe oh, on rentre du balto, voilà. Alors, je le dis, cette adaptation elle fonctionne bien. Par contre, est-ce que tous les contes de notre enfance pourraient être adaptés à la vie de 2019, je suis pas sûr. Prenez par exemple Bambi. Tu mets ça en 2019, ça serait impossible. Le chasseur et tue la mère de Bambi. T'aurais 12 000 associations de la protection des animaux qui nous tomberaient dessus.
Ou bah alors, ouais, faut que
Bambi, ou alors, faut que Bambi, ça soit le nom d'un randonneur qui se balade avec sa mère. Boum, un chasseur aviné, une balle perdue. Boum, enfin, ou plutôt Pampan. Et voilà, clac, là, c'est moderne. Là, c'est crédible. Alice au pays des merveilles en 2019. Ça passerait sans souci. C'est une ado qui prend des champignons hallucinogènes, qui prend le thé avec un lapin sous acide, un chat aux mille dents, une chenille qui fume la chicha. Ça s'appelle une soirée d'intégration en école de commerce. Les gens n'en meurent pas. Voilà. Après, il y a des histoires qui vont être plus compliquées. Aladdin, par exemple. Bon, l'arabe voleur, ça va, on est en 2019. C'est peut-être fini, le cliché. Non, mais c'est vrai. Non, tu fais Aladdin aujourd'hui. Il aurait pas de tapis volant, mais il aurait une Peugeot 508. Le mec, il est chauffeur Uber. La princesse Jasmine, il l'a pas rencontré au marché, mais sur Tinder. Il a pas de génie pour faire croire qu'il est riche, mais il a Instagram et Photoshop. Voilà. C'est le tour. Jouer. Robin des Bois en 2019, c'est un gilet jaune. Mmh. Bon, sauf que tu fais Robin des Bois, gilet jaune, il n'y a pas de frère Toc, parce que le curé n'a pas bonne presse en ce moment, tout comme les candidats des 12 coups de midi. La petite sirène aujourd'hui, alors je suis au regret de vous apprendre qu'à force de bouffer du plastique et des hydrocarbures, la petite sirène, bah, elle a pris une claque, hein. Les derniers jours n'ont pas été très beaux à voir. En plus, elle s'est coincée dans un sac poubelle, elle a confondu un steak de soja avec une tongue havaianas, bref, son estomac c'est devenu une poubelle jaune. Donc bravo Anne, voilà, j'ai l'impression que vous avez choisi le bon film pour faire une version 2.0.
Merci Tom. France Inter, Nagui, la bande originale. Est-ce que c'était le point de départ de justement de faire une nouvelle version de Blanche-Neige, ou le point de départ était d'abord de raconter l'histoire de cette jeune fille, et au fur et à mesure, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelques codes qui pouvaient trouver écho dans le conte des frères Grimm?
Voilà, j'ai fusionné en fait cette idée d'avoir une jeune femme qui va vivre une éducation sentimentale un peu particulière, mmh, avec sept personnages masculins, et l'idée du conte, puisque ça me permettait en fait d'être ludique, d'avoir aussi la tension dramatique de par la belle-mère qu'incarne Isabelle Huppert de manière assez incroyable. Ouais. Et puis, par rapport à l'original, de me montrer une Blanche-Neige qui n'est pas servie aux sept nains, mais qui, au lieu de passer, ouais, sa vie à balayer, va au contraire vers l'idée de se trouver, de trouver quelque chose en elle qui va la libérer. Ouais,
c'est elle qui mène la danse.
Ouais. C'est elle qui choisit. Et c'est assez rare de voir un personnage féminin qui va au-devant de ses désirs sans être taxé de femme, de fille couche-toi là.
De rotomane.
Voilà. Et donc, je trouvais que dans la relation homme-femme, et comme vous m'avez dit tout à l'heure, Nagui, j'ai choisi des hommes qui ne sont pas des clichés, des archétypes, ouais, de la beauté fatale.
C'est vrai, Jonathan.
Non, mais au-delà de la beauté.
Prends un mouchoir, Jonathan.
Sens que les auditeurs l'ont entendu.
Au-delà de la beauté, c'est qu'en effet, il n'incarne pas une sorte de virilité surpuissante.
Bam.
Wow. Okay.
Non, mais c'est intéressant.
Non, mais bien sûr. J'ai des spécimens. Voilà, dis-moi un peu plus annexe.
Il faut vraiment t'y faire.
Un peu beauf, quoi.
Non, mais Jonathan, c'est un beauf.
J'ai été élu l'homme le plus sexy 2017-2018.
Oui, partez les poches.
un gratuit, effectivement.
Mais ce qui est intéressant dans le film, c'est les allers-retours que vous faites en effet avec le conte. Si on parle du personnage d'Isabelle Huppert qui incarne en fait cette belle-mère qui dans le conte originel est une marâtre simplement mue par la méchanceté, là dans ce film, Isabelle Huppert, on ne peut que se prendre d'affection pour elle, parce que finalement c'est un amour déçu. Elle a, exactement, perdu son amour.
Elle est mue par la jalousie.
La perte de l'homme qu'elle aime, et de voir aussi le temps se dissoudre. Donc je lui ai fait jouer le rôle d'une manière, je pense, humaine, oui, et pas caricaturale. Par ailleurs, elle joue avec les codes. C'est vrai qu'elle conduit une voiture décapotable, il y a un côté un peu néo-hitchcockien. Oui. Elle fume des
Ah, moi j'avais Isadora Duncan, moi j'avais une image
avec le foulard. On se dit que le foulard peut aller
dangereusement.
Ouais. Et elle est cette actrice incroyable qui fait passer des choses contradictoires. Elle peut être en même temps émouvante. Oui. On dirait que Lou Delage est sa fille d'une certaine façon. Et puis dans la minute d'après, le côté vénéneux prend le dessus.
Blanche comme neige, le nouveau film d'Anne Fontaine réussit avec nos invités, entre autres. Dans ce film, il y a donc Lou Delage et Jonathan Cohen, mais il y a également Isabelle Huppert, Vincent McCain, Charles Berling, Damien Bonnard, Pablo Paoli, ou Poli, pardon, Richard Fréchette, Benoît Poulvorde qui est dingue,
allumé. Ouais. Mais il y a aussi un prêtre qui est bienfaisant et qui libère. Libère les gens. Richard Fréchette, qui est un acteur canadien.
D'ailleurs, dans les sept hommes qui tournent autour, elle peut les rendre dingues, elle peut les rendre amoureux ou être elle-même attirée par l'un des sept, sans jamais passer forcément à l'acte avec les sept. C'est pas non plus.
Parce que l'amour peut être platonique. Voilà. Ouais. Par exemple, à travers les instruments de musique, il y a une scène entre Vincent McCain qui est violoncelliste.
Entre violon et violoncelle.
Violoncelle, qui est assez chaude. Et pourtant, rien ne se passe.
C'est la première fois que ça existe au cinéma.
Quand on fait l'amour à un violoncelle.
Scène de sexe entre un violon et une violoncelle.
Et on est toujours tenté de chercher dans chacun des personnages masculins qui entourent le personnage de Claire les composantes aussi des sept nains.
Il y a Timide, le fils de
Pablo.
Mais j'ai essayé de pas être littéral. C'est plus pour jouer. Que le spectateur joue avec cette idée.
Bah, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, c'est Jonathan qui fait Hatchoum.
Et grincheux.
Y a pas jaloux chez les ethnins, mais grincheux, ouais. Quand d'ailleurs, moi, j'ai revu le dessin animé juste avant de faire le film.
Et ça a été très magnifique.
Ouais, je voulais voir effectivement les caractéristiques comme ils faisaient en dessin animé. Et c'est vrai qu'effectivement, je me rapproche le plus, c'est grincheux.
De simple.
Et enchanté, Anne.
T'as bien fait d'être venu.
Voici Jérémy Cody.
La transition avec simple.
Alors, le 25 mars dernier, la NASA a annulé une expédition 100% féminine dans l'espace. C'est passé aussi inaperçu qu'une faute de goût au pied de Nagui. Et l'unique raison, c'est qu'il n'y avait pas assez de combinaisons à la bonne taille. Ouais. On voit bien que la NASA est gérée par des hommes, complexe avec la taille. Et les femmes, ils veulent pas les mettre sur orbite, ils les préfèrent sur la leur. Bon, après, je dis 100% féminine, mais elles n'étaient que deux. Du coup, ça m'a révolté. Bonjour Anne. Ça m'a révolté, mais un peu moins. C'est comme si tu voulais rentrer dans un EHPAD et le gars à l'accueil te dit « N'entrez pas là-dedans, ils sont tous morts !»« Oh mon Dieu, ils étaient combien ?»« Deux, et ils sont morts de vieillesse. » Vous voyez, c'est tout de suite moins dramatique. On met une petite plaque à la mémoire de Valérie Giscard d'Estaing et Daniel Morin et hop, c'est réglé. Pour revenir à mon histoire de NASA, je trouve ça quand même dingue. Je veux dire, ils sont censés avoir les moyens intellectuels et financiers pour pouvoir organiser la sortie de deux femmes dans l'espace. C'est la NASA, c'est pas une association de philatélistes du Val d'Oise.
Excusez-moi.
Oui.
Hervé, membre actif des timbrés de Sarcelles.
Ah merde.
Juste pour vous dire, on a des timbres du 19e siècle quand même.
Ah bah, c'est super.
Oui, et ils ont tous leur cran.
Oui, c'est génial.
Ouais. Et vous savez que... Non, allez, faut partir Hervé. Oh non, à chaque fois on me coupe.
Bref. La NASA, ils savent envoyer des chats, des chiens, des singes, des rats, des mouches, du piment d'Espelette dans l'espace, mais deux femmes en même temps, ils savent pas faire. Quand je dis ça, deux femmes en même temps, j'ai essayé une fois, c'était pas un grand succès non plus. Le voyage a duré même pas 30 secondes et je peux vous assurer que j'en ai fait décoller aucune. Voilà. Alors, attendez, on me dit qu'après ce moment beauf, dans le casque, il faut un moment suspendu, un petit intermède musical, aujourd'hui avec Meufano.
Deux femmes qui se tiennent la main.
Oui. C'est pas grand corps malade, tu l'auras peut-être. Ouais,
quand on est sur Terre, ça ne nous gêne pas.
Carla Bruni.
Mais quand ça se passe dans l'espace.
Les canaux.
Exactement.
Ça a l'air de pas trop le faire pour la NASA dans l'espace. Pour sortir, faut un homme.
Oui,
y a pas de problème, y a de la testostérone.
Je termine.
Mais les œstrogènes, sans jeu de mots, on s'en tamponne. Qui arrête une mission en plein vol? Décision prise du sol. Pas de femme avec une femme.
Oula, faudrait que je prenne des cours de
docteur.
Bravo.
La NASA, quand ils pensent, en fait, la NASA, si tu le personnifies, c'est un beauf, tu vois. Ils disent, on va quand même pas envoyer deux bonnes femmes assembler des trucs pour un module spatial. De toute façon, qu'est-ce qu'elles vont foutre dehors? Les soldes? Voilà. Cette même NASA qui te promet le retour d'un humain sur la Lune dans 5 ans. Oscar Wilde, elle dit à sujet, il faut toujours viser la Lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles.
Ouais.
Alors bon, déjà qu'Oscar Wilde essaie de viser la Lune, c'est pas surprenant. Et puis, pardon pour ses fans, mais il était complètement con, Oscar. C'est vrai, pour louper la Lune quand tu la vises, bon, ça un sacré strabisme. Et puis, surtout parce que l'étoile la plus proche de notre système solaire est à 4,22 années-lumière. Ça veut dire que, en allant à la vitesse de la lumière, on mettrait plus de 4 ans pour atteindre cette étoile. Et oui, Jeannie. Et si ça se trouve, c'est une étoile de merde. Donc, t'imagines, le premier ou la première astronaute qu'on envoie dans l'espace à cette vitesse, s'il la loupe...
3, 2, 1, ignition.
Yeah ! Ah merde, attendez, Houston, Houston, on a un problème, je viens de louper la Lune.
Pas de souci, vous atteindrez une étoile dans 4 ans et quelques mois.
Quoi ? Mais je vais faire quoi, moi, pendant tout ce temps ?
On vous a mis un sudoku en dessous du ciel. Bon voyage.
Et le pire, c'est que le problème de taille de combinaison aurait pu être réglé en 12 heures de travail. Mais les astronautes ont préféré faire des pirouettes en apesanteur et boire leur urine recyclée. Du coup, c'est triste à dire, mais je constate qu'en 2019, même dans l'espace, les femmes n'ont pas le droit de sortir parce qu'elles ne sont pas habillées comme il faut. Triste époque.
Merci, Jérémy. La bande originale, Lady. Sur France Inter. La bande originale dans votre film est très présente aussi, la musique. Quelques scènes de danse. J'imagine, comme souvent au cinéma, si vous avez dû danser sans savoir sur quelle musique ça se passait et la musique était après au mixage. Comment ça se passe ?
Non, parce que généralement, la plupart des musiques étaient choisies pour le tournage.
Donc ils pouvaient danser en entendant la musique sur laquelle ils dansaient.
Oui, oui.
Car, pardon, mais j'avais compris qu'au cinéma, on dansait en silence.
Non, ça arrive. Ça arrive,
mais moi je trouve que c'est pas la même chose. On joue pas pareil du tout quand on est sur la musique. Donc c'est bien de choisir avant.
C'est agar agar.
Ouais.
Ça c'est la danse sur laquelle dansent Isabelle et Lou.
Et la musique
un peu relâchée.
Ouais, la musique de Bruno Coulet, et puis surtout, il y a un personnage en plus des... en plus des... En
ça
plus
renifle
de... Non, j'ai été coupé, j'ai été coupé.
Non, t'étais pas coupé. Moi, je l'ai comme ça.
On a le casque, là, on l'a vu.
Donc, en plus des 7 hommes et de Blanche-Neige et de la marâtre et du... et, on va dire... et Charles Berling jouant donc le...
fiancé d'Isabelle Huppert. Ouais.
Voilà. Le beau-père. Donc,
une sorte de beau-père.
Ouais, une sorte de beau-père. Il y a la nature, mais la nature au sens large du terme. C'est-à-dire les animaux, c'est-à-dire la forêt,
le Vercors,
c'est-à-dire la pluie, l'eau, la brume, tous ces éléments naturels qui sont très présents. Ouais.
Ben oui, c'est un amplificateur de beauté,
de peur aussi par moments.
De peur, d'érotisme, comme vous dites. C'est comme un monde enchanté avec aussi, on se demande qui va arriver dans cette maison, parce que c'est une maison assez incroyable qui est... vraiment perché dans le Vercors, qui est une région magnifique, mais très sauvage.
Et donc, on est où d'ailleurs ? Vous avez tourné, parce qu'il y a des villages qui sont superbes. On a l'impression qu'on n'est pas trop loin de Grenoble, de Gap, on est en Isère, c'est ça ?
On n'est pas loin de Notre-Dame de la Salette, de la Barre des Écrins.
Super joli.
Super
pourquoi
beau.
Pourquoi vous êtes allé là pour votre Blanche-Neige ?
Parce que c'est super joli. Vous voyez, quand on cherche une région... un peu unique, qui fasse rêver, qui puisse être comme l'univers d'un conte et en même temps réel, parce qu'il fallait que ce soit véridique. C'est vrai que quand je me suis promenée dans cette région, j'ai trouvé qu'il y avait une force de la nature incroyable. Et ça va avec l'idée du sujet et de la fantaisie aussi d'être dans ce village où sept hommes sont là finalement en se connaissant et chacun dans leur bulle. Qu'elle va réunir d'une certaine façon. Elle va réunir ces personnages.
Ils ne peuvent pas imaginer un seul jour qu'une telle beauté de créature, d'accord ?
C'est une épiphanie,
ce que dit Benoît Paul Verde quand il la voit apparaître dans sa librairie. Il dit mais c'est une apparition, quoi. Il est complètement halluciné.
C'est la Sainte Vierge dont il parle aussi sans cesse, qui recommande d'aller voir Sainte Vierge de la Salette. Cette
statue. La Salette est un endroit un peu comme Lourdes. Ouais. C'est un endroit de où les gens viennent se prosterner, viennent donc c'est vrai que c'est connu dans cette région et ce prêtre qui est un prêtre tout à fait assez inhabituel dans le sens
de très tolérant.
Bah, il y en a beaucoup qui sont très tolérants.
Ouais. Mais je sais pas, j'en connais beaucoup.
Avec les pécheresses, il est.
Mais pas avec le péché.
Non.
Voilà. Bravo.
Ah oui, on a bien retenu. La bande originale d'Anne Fontaine, Lou Delage et Jonathan Cohen. On va commencer dans les débuts des années 90 avec Lou Delage qui écoutait. What's up, les Four Non Blondes. Ah. Vous entendez cette musique ou vous avez quelles images de votre enfance?
Oui, puis c'est surtout une musique qui met de très bonne humeur, je trouve. Donc c'est surtout une musique qui ramène à une époque et qui en plus, en cas de coup de mou, redonne du peps.
Et années 90, enfin c'est l'année de votre naissance en fait, 90. Oui. On a parlé de cette enfance où l'ennui était recommandé en Charente-Maritime notamment, et avec un désir de devenir comédienne assez jeune. Comment est-ce qu'il se matérialise dans votre esprit ce souvenir? À quel moment vous avez la sensation, on parlait d'apparition, de révélation à ce sujet?
Alors moi je m'en souviens pas, mais je me souviens pas avoir voulu faire autre chose. Mais c'est ma maman qui me raconte qu'en sortant d'une pièce de théâtre quand j'avais 6 ans, je lui aurais dit je veux faire ça quand je serai grande. Et quand j'ai fait du théâtre vers mes 10 ans, je me suis retrouvée avec une prof de théâtre assez géniale qui a permis que le fantasme que je me faisais de ce qu'était le théâtre en fait, devienne complètement réel. Donc je me suis dit, bah, effectivement, c'était bien ça.
Anne Fontaine, vous écoutiez, vous, à ce moment-là, les Rita Mitsouko. Les histoires d'aller. Et oui, c'était le titre de votre premier film, en plus.
Ouais, ça s'appelait Les histoires d'amour finissent mal en général.
Qui était présenté à Cannes, et juste avant, vous comptiez arrêter le cinéma.
Ben, je comptais pas arrêter le cinéma, parce que j'avais pas fait encore un film, mais c'est à partir du moment où j'ai eu le prix Jean Vigo, et que j'ai été sélectionnée à Cannes, que je me suis dit que je pouvais peut-être être légitime. Mais j'étais autodidacte complètement, et j'ai fait un premier film sans me rendre compte du tout de ce que c'était de faire un film.
C'était possible alors, en tant qu'autodidacte à l'époque, de faire un premier film comme ça?
Bah, même maintenant, je pense, vous savez.
Moi, j'ai la sensation que c'est plus difficile encore aujourd'hui, c'est ce que disent
sans
souvent
avoir
les réalisateurs.
La carte, tu veux dire?
Oui. Sans avoir fait de court-métrage, d'école. Ouais. C'est un taux de détermination et c'est très. Qu'est-ce qu'il dit, lui?
Pas d'accord. Pas
d'accord. Excusez-moi, je sens que.
Non, mais je comprends ce que tu penses.
Facile et moins facile et plus facile aussi.
Ça dépend si tu as un nom.
Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de manières de faire du cinéma. Il y a des gens qui viennent, qui sortent du sérail et qui arrivent. Alors, c'est moins évident, mais il y a les technologies, il y a aujourd'hui les plateformes pour aussi révéler des talents. Et ça, pour le coup, ça sort un peu de ce chemin un peu tracé que pouvait avoir école de cinéma et puis après les
réseaux,
les
trucs. Ouais, c'est ça.
Voilà.
Ouais.
On peut tourner avec du matériel pas trop cher, on peut se débrouiller, quoi, en tout cas.
Exactement. Il y a des films qui sont faits à l'iPhone, notamment, qui a été vendu à Netflix il y a pas longtemps, là. Qui a été fait pendant
qui a duré 3-4 ans, le tournage, etc.
Exactement, voilà.
Vous avez été comédienne, vous avez des souvenirs marquants.
J'ai eu peur.
Marquants, pourquoi?
J'ai eu peur. Marquants, oui, puisque j'ai fait Esmeralda dans Notre-Dame de Paris. Donc ça a été ma première expérience. J'ai été choisie par Robert Hossein, alors que je n'avais jamais fait de théâtre, j'étais danseuse. Et ensuite, j'ai fait quelques films assez oubliables, mais ça m'a... intéresser les autres acteurs. En fait, moi je trouvais que c'était pas un truc pour moi.
Non, mais alors j'ai pensé, parce qu'il y a une scène dans Blanche comme neige où le visage, et c'est pratiquement une photo d'ailleurs, le visage qui reflète dans une vitre avec un côté très très pastel, très flou.
Oh là, je vois bien où vous allez aller.
Et oui, et je me suis dit c'est une photo, et vous voyez très bien de quelle photo, oui, de quel photographe malheureusement je parle.
Non, mais j'ai fait un film.
On est d'accord. Non, mais on est d'accord. Mais est-ce que en faisant ce
mais ils
plan,
comprennent pas ce qu'on veut dire.
Ouais. Bien
sûr que si.
On va y arriver. Mais
bah, vous n'avez pas pu comprendre.
Pourquoi?
Je sais pas, je n'ai pas l'impression que vous avez
compris.
Je ne
connais pas Hamilton.
Si, c'est ça, c'est exactement ça, c'est David Hamilton. Mais en faisant ce plan-là, vous pensiez à cette photo, c'est pas possible.
Non, sincèrement, non. Non, je voulais.
Mais vous comprenez pourquoi j'y pense quand je la vois.
Bah parce que vous saviez que j'avais.
Non, je l'ai su après.
Ah bon, c'est.
Non, j'ai vu le film, je dis, mais c'est dingue, on dirait une photo d'Hamilton. Et ensuite. Non mais pardon, parce que je n'avais pas en tête votre filmographie et votre parcours. Mais non, mais... et après je vois que vous avez bossé avec Hamilton. Oui, je suis.
J'ai même
fait
prof,
naïf.
Vous savez, avec Patrick Bruel et Fabrice Luchini.
Vous étiez la femme de...
J'étais la maîtresse de Patrick Bruel.
C'est ça.
C'est une drôle d'expérience, je peux vous dire. Avec Patrick Schulman. Non, mais j'ai fait des rôles, mais... c'était pas quelque chose où je me sentais pas appelée du tout, et c'est grâce à ça finalement que j'ai commencé à écrire et que je me suis imaginée metteur en scène possible. Mais ça m'a donné une expérience intéressante pour aujourd'hui.
Quant à vous, Jonathan Cohen, alors, bon, je ne sais pas à quel point cette musique est vraiment celle que vous écoutiez dans les années 90.
Entrez dans la lumière.
Mais c'est ce que vous nous avez donné.
Absolument.
Et donc vous avez eu une enfance difficile.
J'ai eu une enfance où vous avez eu voilà un disque et c'était celui de Patricia Cass. Non, c'était pour prendre des nouvelles de Patricia Cass, des nouvelles.
Que devient-elle? Elle va bien, je pense qu'elle.
Elle va bien.
Bien.
Ouais, des tournées, des choses comme ça.
Tout la totale. Ouais.
On a envie de la voir. Elle vit en Allemagne.
Elle fait des albums.
Et est-ce que c'est vrai, Jonathan Cohen, que le cinéma vous le découvrez grâce à votre grand-père qui est rabbin? Cinéphile passionné de boxe et de kung-fu.
Absolument.
C'est vrai.
Oui.
Parce que j'ai l'impression que c'est un pitch.
Mais j'avais un grand-père extraordinaire.
C'est Black Snake, quoi.
Extraordinaire.
Avec
mais il était musicien, il était tout, il était cinéphile et effectivement, il était fan de films de kung-fu et en même temps de boxe. Il se levait à 5h du mat pour voir les matchs sur Canal+. Et voilà, c'est toute une histoire, mon grand-père, ouais.
2007-2008, Lou Delage, vous écoutiez Barbara.
Quand reviendras-tu?
Sur une enfance très théâtre. Là, on sent qu'elle était en école de théâtre.
Que des titres pour filer la patate.
Oui,
Fort Non Blondes, tu rigoles? Ça me mettait la patate, Fort Non Blondes.
Et à cette époque-là, Lou, vous venez à Paris, vous vous inscrivez dans une école de théâtre, vous trouvez en fait cette école en ligne sur Internet. Donc aucune connaissance dans le milieu de conseils?
Non, parce que je connaissais personne, donc je savais pas trop vers où me tourner. Et puis il y avait on entendait le directeur de cette école qui s'appelle Claude Mathieu parler du théâtre, et je m'étais dit j'aime sa façon d'en parler, donc voilà, c'est l'école que j'ai envie de faire.
Et vos parents vous laissent partir tranquille?
Oh, tranquille, je pense pas qu'il l'était, mais il me faisait croire qu'il l'était.
Ouais, c'est ça. Et il vous donne 2 ans, c'est ça de...
Oui, mais ça, c'est pareil. Mon père m'avait dit, je te laisse 2 ans pour réussir à vivre de ton métier. Et si tu n'y arrives pas, tu pourras penser à autre chose.
Et comment vous avez fait pour en vivre?
C'est comme une menace,
métier,
quoi.
Ouais.
C'est, ouais.
Non, parce que je sais qu'il ne l'aurait jamais fait.
Ouais. Ah oui, d'accord.
Mais que c'était plus une manière de me rappeler une réalité.
Et de vous motiver aussi, de dire, voilà. Attention, la vie n'est pas...
C'est pas parce qu'on est dans une école que tout est gagné, qu'il faut mettre des choses en place même en étant au sein d'une école.
Et alors les petits boulots pour pouvoir payer l'école, vous faites quoi?
Bah du coup très vite, j'ai fait du babysitting mais pas longtemps. Et parce que très rapidement je me suis inscrite dans une agence de pub en demandant une pub qui se voyait pas pour payer mon école.
Ah, ça marchait avec le bourgeois.
Avec le bourgeois, ouais.
Voilà, on s'est surtout moqué de moi parce que ça n'existe pas une pub qui ne se voit pas.
Ah oui.
Ah oui.
C'est un peu le...
On peut faire mannequin main.
Mais c'est ce qui m'a permis de rentrer dans une agence d'acteurs.
Il y a
de
eu...
De dire cette grosse bêtise.
D'accord.
Donc, voilà.
Non, non, mais il y a eu toute la campagne au BAD où on n'a jamais vu le visage de la fille qui faisait...
C'était moi.
La campagne au BAD.
C'était leçon numéro 7,
voilà,
t'étais pas là.
Numéro 8 et 9.
C'était ouais. Vanessa
Demouy. C'est déroutant, hein.
C'était Vanessa
Demouy. Vanessa Demouy,
Et Corinne Touzet.
Sérieux?
Mais non,
c'est gratuit. Elle qui dit sérieux.
Attends, c'est une très belle femme, Corinne Touzet.
Anne Fontaine, vous écoutiez.
C'est quelle, on est à quelle année là?
On est en 1940.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est 92, ouais, bravo.
On est en 2008 avec La Fille de Monaco.
2008, ouais, La Fille de Monaco avec Fabrice Lucchini et Louise Bourgoin aussi.
Ouais.
Que vous lancez au cinéma.
C'était la première fois qu'elle jouait au cinéma, oui, tout à fait.
Et pourquoi tout d'un coup Louise Bourgoin? Qu'est-ce qui a fait que c'était elle? Une forme d'impertinence aussi?
Je l'avais remarqué comme Miss Météo parce qu'elle avait une façon de le faire qui était tout à fait
génial,
surprenante.
Ouais.
Et puis j'ai cherché des jeunes femmes et puis je trouvais pas quelqu'un qui m'inspire vraiment. Et je l'ai fait venir et dans la seconde, avant même de faire des essais, je me suis dit ça m'étonnerait que ce soit pas elle. Et c'était merveilleux de mélanger une actrice qui n'avait jamais joué avec Fabrice Lucchini, qui est quand même l'acteur par excellence.
Mais quel risque, surtout? C'est un risque de dingue à prendre pour...
Pourquoi non? Si vous sentez quelque chose comme une évidence...
J'entends, et si ce n'est pas le cas, si vous faites 5-6 semaines de tournage avec quelqu'un qui n'apporte pas, ne transmet pas ce que vous voulez donner...
Mais faire la mise en scène, c'est de faire le bon choix d'acteur. C'est 70% de la réussite d'un film, c'est de choisir les acteurs. Donc, ça passe
mais
par
quand
vous.
Quand ils n'ont jamais été acteurs, comment savoir qu'ils vont l'être?
Elle était un peu quand même, hein.
Et puis vous, non, j'ai fait des essais.
Sketchs, elle faisait des sketchs sur
mais j'ai, fait des, ouais. J'ai fait des essais. J'ai quand même fait une maquette d'essais. Par exemple, avec Lou Delage pour Les Innocentes, j'ai fait des essais. Et avec plusieurs filles. et elle était la plus mauvaise. Et c'est pourtant elle que j'ai prise. Donc vous voyez, ça...
Quel était votre moteur? Pourquoi?
Ben, mon moteur, c'est parce que je pensais que c'était elle qui serait formidable. Et que les essais, c'est une étape qui peut s'avérer décevante. Il faut arriver à voir derrière quelqu'un qui vous inspire. Et Louise...
J'arrive pas à croire qu'elle soit mauvaise sur des essais. Enfin, je veux dire, quand on voit ce que...
Non, mais mauvaise, c'est relatif.
Sa manière de jouer ensuite, oui.
Mais inspirer, un peu à côté de la plaque, elle le sait. Je lui ai dit, d'ailleurs.
Moi, je suis sortie du casting des Innocentes en me disant « Je n'aurai jamais ce rôle, je viens d'être terrible. » Et moi, je trouve que c'est une grande qualité qu'a Anne, c'est qu'elle sait faire confiance. Et quand quelqu'un nous apporte cette confiance-là, nous offre ça, finalement, on ne fait que s'élever.
On est redevable de quelque chose, donc on ne doit pas la décevoir.
Donc elle permet d'aller aussi dans le jeu et dans ce métier-là avec plaisir et avec amour. On se sent
même porté. Jonathan Cohen, bon, je lui ai pas fait faire d'essai, mais je l'ai rencontré dans un bistrot à Bastille. Et je me suis dit...
C'est triste.
Ça va pas être facile.
Non, elle a été charmée. On a été charmés l'un l'autre.
Non, elle a dit ça va pas être facile.
Ça va pas être facile.
D'autant qu'à ce moment-là, il écoutait...
Tu trouveras dans mes chansons...
Natacha Saint-Pierre.
J'adore.
Tu trouveras...
Tout le monde aime ça.
Mes faiblesses.
Ah, j'adore.
Mes faiblesses. Pas de mots. Demi-mots. Mais dans le souffle. Malade.
Et on vous retrouve...
Excusez-moi, j'ai pas fini.
Sache que si j'en fais toujours...
On vous retrouve dans Variation à cette époque-là, une pièce mise en scène par Julie Brochaine.
Oui, sur Lagarce.
Voilà, à partir des textes de Jean-Luc Lagarce. Vous avez vu la version de Dolan?
Oui.
Parce que vous qui connaissez bien le texte...
Oui, en plus, je connaissais bien ce texte et enfin, l'auteur, tout ça, ça m'était beaucoup intéressé. Non, il a fait une version, le film est bien, mais c'est vrai que ce qui est marrant avec Lagarce, c'est que ça, quand tu lis du Lagarce pour la première fois, tu dis, qu'est-ce que ça raconte? C'est très quotidien, c'est un peu des rapports, tout ça. Et en fait, c'est en dessous, c'est tout est en sous-texte chez Lagarce. C'est tous ces non-dits, toutes ces choses qui explosent de temps en temps. Et c'est vrai que lui, il a décidé de faire tout exploser, de rendre tout visible beaucoup plus. Je suis pas totalement d'accord, mais bon, je respecte et les acteurs sont assez formidables.
On a demandé à Bernadette Bricout, merci Bernadette de venir à ce micro. Vous êtes professeure de littérature orale à l'Université de Paris Diderot. Vous enseignez, vous recherchez sur les mythes et contes de la tradition orale. Vous avez notamment écrit La clé des contes aux éditions du Seuil.
On passe toujours un bon moment avec vous, on rigole tout le temps. On est ravis de vous avoir à nouveau.
Quand on parle de Blanche-Neige, on en est peut-être... je sais pas si vous avez vu le film Blanche comme Neige.
Oui, bien sûr.
Vous trouvez qu'on en est loin de Blanche-Neige, justement?
Non, je trouve qu'on est au cœur de Blanche-Neige avec une manière de le revisiter qui est à la fois contemporaine, inscrite dans notre temps, en même temps assez subversive par rapport à un certain nombre d'idées reçues, et aussi intemporelle, c'est-à-dire que je crois que c'est un film qui ira bien au-delà de l'année 2019, en tout cas, c'est ce que je lui souhaite.
C'est ce qu'on lui souhaite, oui.
Merci.
Quelle était la version? Parce que souvent, on retient, comme l'a évoqué tout à l'heure Jonathan Cohen, c'est-à-dire les adaptations en dessin animé pour les enfants, et les Disney, Blanche-Neige Disney, ça n'a rien à voir avec le conte des frères Grimm.
C'est vrai, mais le conte des frères Grimm, au fond, c'est la version écrite, la version littéraire la plus connue.
Généralement, c'est plus trash ce que
1812, il faut dire quand même que dans la première version des frères Grimm, la marâtre n'est pas la belle-mère, c'est la mère. C'est la mère qui est en opposition directe avec sa fille.
Donc, en jalousie, donc, avec sa fille.
Jalousie et peut-être
Elle veut la tuer ou pas dans le conte des frères Grimm?
Elle veut la tuer. Elle fera tout pour la tuer, bien entendu. Comme vous savez, c'est un peu ce qu'on retrouve au début de Peau d'âne avec la promesse que doit faire cet époux à sa femme mourante de n'épouser qu'une femme plus belle qu'elle. Ouais. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de une génération chasse l'autre et où Blanche-Neige grandit. Dans le conte des frères Grimm, c'est quand elle a 7 ans. Que le miroir commence à dire « Elle est plus belle que toi ». Donc ça commence très très tôt.
Dans Peau d'âne, c'est plus incestueux qu'autre chose quand même. Dans Peau d'âne, c'est pas que la promesse.
C'est vrai, C'est vrai.
C'est l'inceste, la toile de fond de cette histoire. Comment expliquer le succès de Blanche-Neige? Quelles sont les valeurs véhiculées par Blanche-Neige qui trouvent écho en nous?
Bah d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un conte de tradition orale qu'on a recueilli vraiment de l'Asie mineure à l'Afrique. C'est une histoire de tradition orale qui se raconte en Europe, de l'Irlande à l'Espagne. On en a des centaines de versions. Et dans nombre de versions, d'ailleurs, la marâtre n'interroge pas le miroir magique. Elle interroge la lune ou le soleil sur l'état de sa beauté, mais toujours avec la même angoisse. Et les astres répondent de la même manière que la fille est plus belle. Alors, valeur? Évidemment, on pourra en parler pendant 6 semaines, mais le miroir, on va parler du miroir, parce qu'au fond, le miroir, il est très présent dans votre film, et en même temps, il ne parle pas comme dans la version de Disney. En tout cas, il ne met pas en mots, en féminine ou en masculine, ce qu'il a à dire. Il le dit autrement. À la marâtre, en lui renvoyant l'image de son vieillissement, à la jeune fille, en lui renvoyant l'image de cette vie qui n'a aucun sens, où elle est, comme vous le disiez, Lou, déconnectée d'elle-même. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du pruneau dans un bocal. On a le sentiment que rien n'est advenu dans cette vie. Et donc, le miroir magique, si vous voulez, c'est la part d'ombre. Il nous révèle à nous-mêmes ce qui à la fois ce qui est manifeste et ce qui est caché. Et ça, je crois que c'est un motif qui a véritablement une valeur universelle.
Bernadette Bricou, si vous avez encore quelques minutes à nous consacrer, on pourrait continuer à en parler après les infos de midi. Ça vous dérange pas?
Oh, pas du tout.
C'est gentil parce que je sens que vous en avez encore sous le pied.
Miroir.
Oh, elle en a sous le pied. Hein. Oh, Bernadette. Tanguy Passureau, bonjour Tanguy.
Bonjour.
Vous vous intéressez aujourd'hui à la gauche française.
Oui, parce que c'est bien de sortir de sa zone de compétence parfois. Et puis les gens de gauche en ce moment, c'est absurde. Ils sont autant à se présenter qu'il y a de gens pour les élire. Pour les européennes, ils sont 5. Hamon, Jadot, Glucksmann, Aubry, Brossa, les 5 piliers de la loose.
On en parle après les infos de midi. La bande originale, merci d'être au rendez-vous avec Léa Gadeau-Moudali.
Bonjour.
Daniel Morin, Tanguy Passureau, Jérémy Trouville et nos invités Lou Delage, Anne Fontaine et Jonathan Cohen.
Bravo. Oui, merci.
Nous parlons de Blanche comme neige, ce très bon film signé Anne Fontaine. Vous rendez compte, Anne, que chaque fois que vous sortez un film, c'est un événement, c'est le nouveau Anne Fontaine. Vous rendez compte de ça ou pas?
C'est gênant. Probablement, si vous me le dites.
Non, mais si, on le voit.
J'essaye de faire un film à chaque fois événementiel, surprenant, enfin, pour moi-même, de ne jamais faire quelque chose que j'ai déjà fait.
Et vous vouliez quelque chose de plus solaire que les précédents?
Pas que le précédent, j'ai fait des comédies comme La fille de Monaco ou Gemma Bovary, et ce film est dans cette lignée-là. C'est une comédie décalée, mais je pense qu'il y a des moments de drôlerie.
Il y a toujours une composante dans les derniers films de vous que j'ai vus, c'est ce côté roman d'apprentissage. C'est cette dimension du personnage qui évolue, qui se découvre, qui se révèle. Il y a souvent ça dans votre cinéma, c'est les histoires qui vous plaisent.
C'est des personnages de femmes qui vont dans des zones inédites d'elles-mêmes, qui découvrent quelque chose. Alors que ce soit Coco avant Chanel, c'est des personnages très différents, ou Perfect Mothers avec Naomi Watts
super,
et Robin Wright.
Sublime.
Et Gemma Bovary.
Ouais. Le dernier, avec Finnegan Oldfield, finalement, il y avait aussi cette dimension roman d'apprentissage.
De ce jeune garçon.
Ouais.
Oui, parce que je trouve que c'est le moment où une vie bascule, où tout d'un coup, quelque chose d'inédit se produit. Et puis d'aller dans les zones aveugles, des zones qu'on ne connaît pas. Donc, j'ai beaucoup aimé traiter cette Blanche comme neige avec cette fantaisie-là.
D'où l'intérêt de revenir, et nous revenons d'ailleurs à ce conte, à ce Blanche-Neige avec vous, Bernadette Bricou, professeure de littérature, je le rappelle. Est-ce qu'on peut considérer Blanche-Neige comme un conte initiatique féminin?
Oui, et j'aimerais, sur ce que vous venez de dire, dans ces contes d'initiation féminin, très souvent, les femmes, les jeunes filles, les petites filles aussi, depuis Boucle d'Or, vont être amenées à explorer des lieux qui sont vraiment à l'abri des lois sociales. c'est-à-dire pour l'essentiel des lois masculines et des valeurs viriles. Et ces lieux-là sont des clairières. C'est la clairière du cercle des fées ou des sorcières au sabbat sont des lieux déserts, des lieux à l'écart du monde, des lieux un peu en marge de la vie sociale. C'est d'ailleurs bien le cas de ce village où on a le sentiment, à écouter le libraire, que jamais rien n'a eu lieu lorsque ce fut comme une apparition, lorsqu'il rencontre Lou pour la première fois, puis sa belle-mère. On a vraiment le sentiment que la beauté est là comme une espèce de surgissement, non pas seulement de l'inattendu, mais de l'imprévisible. C'est une beauté convulsive, aurait dit Breton, et convulsif, le film l'est. Mais
est-ce qu'il y a une morale à cette histoire ? Est-ce qu'il y a une leçon à tirer ? Où chacun finalement prend la sienne ?
D'abord, chacun va, au fond, se raconter l'histoire qu'il a envie de se raconter, parce que les personnages de conte sont toujours des personnages sans épaisseur, un peu comme les figures du théâtre d'ombre ou même celles du jeu de cartes. Donc, on va pouvoir les nourrir de notre histoire.
Donc, on peut s'identifier facilement.
Est-ce que nous sommes ?
Oh, d'accord.
Mais il y a quand même autre chose, il y a quelque chose qui est de l'ordre du triomphe de la vie dans ce film, du triomphe de la vie sur les forces de mort. Je vais pas tirer le film du côté de la parabole, encore que l'Église et certains éléments du dénouement pourraient y inviter, mais il y a quelque chose qui est vraiment, oui, du côté de l'exaltation de la vie. Et moi, je serais tentée de dire que Walt Disney, c'est quand même grâce à Walt Disney que le film est devenu un film planétaire, à sa manière, En invitant le conte du côté de l'enfance. Alors vous avez dit, on disait tout à l'heure en voix off que Blanche-Neige était dans cette version de 1937, une femme aliénée. Une femme aliénée,
une femme de ménage, hein, dans le
si on, si on la traite comme une femme. Mais pour moi, puisque chacun la nourrit de son histoire, c'est une enfant qui joue. Et elle joue à être tantôt la mère des sept nains, puisqu'elle fait de cette espèce de maison isolée un refuge. On rentre du boulot, ils sont crevés, etc. Et tantôt, c'est l'enfant des sept nains. Elle joue à cela comme Boucle d'Or avec les trois ours, même si l'aventure avec Boucle d'Or se termine plus tôt. En tout cas, moi, je tirerais davantage le conte de Walt Disney du côté de l'enfance. Et il y a du jeu aussi. Vous voyez, absolument. J'ai du mal à y voir simplement une femme de ménage, comme on l'a voulu le faire de Cendrillon.
On est quand même là dans une version plus adulte de Blanche-Neige.
C'est une version qui joue avec les codes de Blanche-Neige, mais qui en même temps est
plus
moderne. Je sais pas, c'est pas une question d'évoluer, c'est une question de façon de mettre en perspective une héroïne moderne et qui...
Non, c'est simplement pour dire, les parents qui se disent qu'ils vont emmener leurs enfants voir la nouvelle version de Blanche-Neige, c'est peut-être pas le moment.
Non, mais des jeunes filles, je pense que...
Des jeunes filles, oui.
C'est pas pour des enfants de 5-6 ans.
Clairement pas.
Non, à partir de 13-14 ans...
15, 16, 17, 18 ans. Non, 14 ans, 13, 14 ans,
il y a rien, je crois, de sulfureux et de... C'est comme vous avez dit, enfin,
c'est un film à la pudique, vie. D'une certaine manière. C'est paradoxal c'est de filmer l'érotisme avec pudeur. Oui. Il y a de la pudeur, il y a un infini respect.
Et il y a de l'érotisme.
Et il y a de l'érotisme.
Bah oui, merci Bernadette Bricou, pardon, d'être venue à ce micro. Merci mille fois. On va continuer de parler de Blanche comme neige avec nos invités Lou Delage, Jonathan Cohen et Anne Fontaine. Mais d'abord, voici Tanguy Pastureau. Tanguy, la gauche française est en miettes, dites-vous.
Oui, et je pense à l'éditeur de France Inter, cet être fragile qui voit son monde s'effondrer, le laissant en pleurs sous un vieux poster de Lech Walesa. Ce syndicaliste polonais, moustachu comme l'ensemble des syndicalistes du monde entier. C'est physique, hein, le jour où vous prenez votre carte, les poils vous poussent. D'ailleurs, on ne le sait pas assez, mais dans le film Le Loup-garou de Paris, si le type devient comme ça, c'est pas à cause de la pleine lune, mais parce qu'il vient d'adhérer à la CGT. La gauche se déchire. Alors pour vous ou pour moi, Nagui, ça n'a pas d'importance, mais pour les autres gens à Inter, c'est une catastrophe. Il y a encore 10 ans, le PS faisait 25% aux élections. Là, il n'existe plus. Hollande, en 5 années, l'a fait disparaître. C'est le Camel, le magicien de la Corrèze. Il a fait à la gauche ce que fait le Silly de Bang à la crasse au fond de la baignoire le jour du bain annuel de Michel Houellebecq. Il ne reste rien. 4-5 leaders qui tous ont le charisme d'une huître qui aurait mal digéré sa perle. Regardez Raphaël Glucksmann. Il a tout pour réussir. Un physique de mannequin slip pour le catalogue de la Camif. Une intelligence qui n'est plus approuvée. Sur son compte Twitter, à description, il y a quand même écrit « Essayez ». existe. Hein, sur le mien, il y a marqué contact pro en DM pour anniversaire et mariage. J'ai des blagues sur Alain Juppé. Glucksmann a tout. Une allure, un cerveau, un nom de super-héros. Glucksmann, l'homme glu. Dans les rêves moites de Daniel Morin, autre orphelin de la gauche française, Glucksmann déboule avec son gros stick UU et le colle contre un mur. Et ben, malgré ça, il n'arrive à rien. La semaine dernière, au débat de France 2, il a été moins convaincant que Bernard Arnault si tenté de nous convertir à la vie en yourte. Alors, il a dit à Benoît Hamon et Yannick Jadot, les autres leaders minimaux, que c'était stupide de ne pas s'allier. Hein, les mecs sont d'accord sur tout. C'est comme si Jean-Marie Bigard et Tex refusaient de se serrer la main parce qu'ils n'ont pas la même version de la fin de l'histoire du caribou en rut et des 128 catins. Et à la fin du débat, nous dit le site de France Inter, Glucksmann s'est retourné vers son équipe et a dit « Je ne suis pas fait pour ça ». Il se retrouve dans la même position que la chanteuse Clara Luciani si on la poussait sur la scène du Hellfest en lui disant « Bébé, Motley Crue refuse de se reformer, voilà un banjo et un triangle, tu les remplaces ». Donc Glucksmann est fragile. Alors dans un sens, ça fait du bien en politique. Cet univers où personne ne doute, où tous se prennent pour Bonaparte alors qu'il dégage la même présence que Quickie, le lapin de Nesquik. Mais le souci, c'est que les autres, alors c'est pire. Tiens, prenez Benoît Hamon.
Oui.
Le pauvre. Rien qu'en prononçant son nom, j'ai envie de me lancer dans l'humanitaire. Hamon, France 2 voulait même pas l'inviter pour le débat des européennes. C'est le tribunal administratif de Paris qui a appelé Delphine Ernotte, boss de France Télé, hein, pour lui dire « Soyez sympa madame, il n'a personne. Il est plus seul qu'un pou sur François Langlais. » Et la présence de Hamon leur a été imposée avec celle de François Asselineau. Vous connaissez François Asselineau, hein, le mec qui arrive à faire coller des affiches de lui sur des ponts à 18 mètres au-dessus de l'autoroute. Hein, je pense que si vous grimpez le Mont Blanc, en haut, il y a une affiche d'Asselineau avec écrit Frexit.
Bon, il se trouve que Benoît Hamon a pu participer au débat télé des européennes.
Ah oui, mais il a fallu forcer la chaîne. À 51 ans, il a la vie que moi j'avais en 6e quand j'étais nul au foot et qu'un des deux gonzes qui faisait les équipes devait me choisir. Seulement, il a moins d'amour propre qu'un obsédé qui débarquerait aux urgences avec le sexe coincé dans une bouteille de Fanta. Et il est venu. Il a même précisé que s'il était élu aux européennes, il ne se présenterait pas à la présidentielle. Sa campagne, c'est voter pour moi et promis, plus jamais vous n'entendrez parler de moi. Hein, remarquez, ça fait envie. Hein. Mais, non, mais je me souviens d'une présidentielle où Lionel Jospin, qui était pour le quinquennat, avait dit « Vous préférez quoi, 7 ans avec Chirac ou seulement 5 avec Jospin ?» Il n'y a pas à dire, les mecs savent se vendre. Hein, c'est comme si nous, sur Mythique, on écrivait « Choisissez-moi, je fais l'amour en 40 secondes, après vous avez tout le reste de la soirée pour regarder Netflix. » Enfin, les derniers de la gauche éclatée, alors c'est Yannick Jadot et Yann Brossa. Alors Jadot, c'est les Verts, hein. Il s'est biodégradé tout seul. C'est le seul qui applique son programme à lui-même. C'est comme si Nicolas Dupont-Aignan s'auto-expulsait de France le jour où un lointain ancêtre berbère se mettait à apparaître dans son arbre généalogique. Et Yann Brossa, donc, c'est un communiste. Alors, lors du débat de France 2, il a fustigé les avions qui participent au changement climatique. Résultat, des internautes ont ressorti ses photos Instagram où on le voit partout, à New York, au Cap-Vert, où il s'est pris en short de bain, un truc que n'aurait jamais fait Lénine, hein, qui avait sa dignité. Bon, il avait un peu de ventre aussi, donc les photos torse nu, il n'était pas pour. Et on le voit aussi à Cuba, la destination numéro un des communistes. C'est comme la Suisse quand on est tennisman. Bref, il prend l'avion sans cesse. Donc il est moins crédible pour en parler que le boucher turc qui a fait bouffer de l'or au Ribéry s'il se mettait à promouvoir le véganisme. Enfin, citons Manon Aubry, tête de liste France Insoumise, alors une jeune dame qui ne fait peur à personne, contrairement à Martine Aubry. La femme qui ne sourit pas, pour qui les gens à Lille votent depuis toujours de peur juste qu'elle se fâche. La gauche, c'est 5 partis pour autant d'électeurs, c'est même pas le Titanic, ce sont des bouées trouées.
Merci.
La bande originale, la vie sur France Inter.
Anne Fontaine signe donc Blanche comme neige. Le film sort ce mercredi au cinéma avec Lou Delage, Jonathan Cohen, entre autres. Isabelle Huppert, on en avait même parlé avec elle à ce micro quand c'était un projet à l'époque. On évoquait tout à l'heure Perfect Mother avec vous, que vous aviez également réalisé. Deux films qui trouvent une lumière, un grain, une manière de filmer l'amour, l'érotisme, avec beaucoup de pudeur, puisque le mot a été utilisé tout à l'heure. Quelle est votre définition d'ailleurs de l'érotisme au cinéma? Comment filmer?
C'est un mystère, c'est quelque chose qu'on cache, qu'on devine. En fait, c'est jamais montré pour montrer. C'est une émotion, en fait, l'érotisme, la sensualité. Donc, j'essaye de trouver avec l'acteur quelque chose de l'esprit de la scène et de ne jamais être démonstratif. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus ennuyeux que de montrer une scène pour démontrer qu'il se passe un acte physique.
Donc vous jouez avec
la lumière,
votre cadre, la lumière, voilà, c'est ça. Oui.
Les cadres, c'est du jeu, enfin, c'est ça parle de la condition humaine. C'est comme le rire, C'est une émotion particulière, en fait.
Et quand vous dites caché, c'est pour ça que l'une des scènes à laquelle je pense quand vous en parlez, c'est celle justement d'un couple qui fait l'amour, mais derrière une espèce de balustrade ajourée où on voit pas. Ouais, c'est ça. Mais donc on a comme des planches comme ça et des lattes, et on les voit à travers la planche.
Voilà,
les planches.
Je trouvais assez beau, en fait, c'est en plein air et il y a quelque chose de solaire en même temps, et on devine, on ne voit pas tout, donc on peut imaginer sur le visage de l'actrice les émotions qu'elle traverse.
Et puis il y a, et je crois que c'est dans la bande-annonce, il y a des scènes troublantes où justement la marâtre elle-même caresse le dos de sa belle-fille en lui faisant des compliments sur
son corps. Ouais. La peau d'Elmando.
Et ses fesses.
C'est pas dans la bande-annonce, ça c'est dans le film.
Oui, lors d'un pique-nique près d'une cascade, elle est habillée en rouge. Elle va lui offrir une pomme rouge.
Une pink lady.
Et avant, elle a une pink lady. Et bon, c'est Isabelle Huppert qui évidemment caresse de manière très particulière le corps de Lou, et qui dit qu'au fond, elle a jamais eu cette beauté, et qu'elle avait l'air d'un petit garçon tout maigre.
C'était comme un coucou.
Il faut être Lou Delage, il faut être totalement en confiance, faire un lâcher prise quand on va dans des scènes érotiques, quand on est devant une caméra, nu devant une caméra. On se pose aucune question, on a totalement confiance dans la manière dont c'est filmé, justement la pudeur avec laquelle c'est filmé.
Oui, sinon je pense que c'est un moment douloureux si on le prend pas avec détachement et sans sérieux aussi. On se prend pas au sérieux à ce moment-là.
Vous êtes beaucoup parlé de ces scènes.
On a beaucoup parlé avec Anne de chaque scène. Parce qu'en plus, chaque scène devait être différente selon le rapport avec chaque homme. Donc c'était aussi un endroit quand même de rire et d'amusement.
Est-ce que vous y avez apporté justement certaines de vos idées en disant, tiens, ça pourrait être marrant que ça se passe comme ça?
Oui, c'était un travail d'équipe. Comme souvent en amour.
Oui, c'est ça, il faut au moins être deux. Et là, en l'occurrence, c'était deux avec Anne.
Il faut avoir de l'humour.
Mais ça sous-tend aussi de connaître un peu son partenaire. Est-ce qu'en amont, c'était important qu'ils se rencontrent, qu'ils se voient en tête à tête, qu'ils existent aussi comme futur couple?
Il y a eu des rencontres.
Jonathan, vous avez essayé plusieurs voitures avant de tourner ce film?
Oui, on était parti sur une Xantia à la base, et puis on s'est rendu compte que c'était pas assez confortable, donc on a préparé un petit 4x4.
Le problème de vous, c'est que vous n'êtes, même quand vous faites l'amour, vous n'êtes toujours pas détendu, je pars du film. Vous n'êtes toujours pas détendu, vous êtes toujours dans une espèce de flip et d'angoisse permanente.
Oui, c'est un combat intérieur très très fort. Et d'ailleurs, je la trouve super, notre scène, le mec a aucun recul sur lui.
Non, je vous confirme.
Mais
on peut le dire, elle est également dans la bande-annonce avec ses écureuils.
Oui, les petits écureuils qui nous regardent en train de faire l'amour. Nous ne sommes pas seuls. Et il y a trois écureuils qui nous regardent. C'est vrai que tout ça, c'est fait, en tout cas, pour notre scène, il faut effectivement beaucoup d'humour, beaucoup de détente, parce que c'est jamais évident.
C'est pour enlever la gêne qu'il faut
de
l'humour.
Oui, parce que c'est forcément un peu gênant, parce qu'on n'est pas très très bien, on s'apprécie beaucoup, mais tout d'un coup on est là et on doit faire une scène d'amour. Donc il faut de l'humour, faut tout ça. Et j'avoue que Anne, pour le coup, c'est pas la dernière à être très drôle, quoi, et à nous détendre, hein, Anne.
Ça se voit pas. Hein.
Non, mais c'est vrai, elle est drôle. Je veux le dire aux auditeurs, elle est hilarante. Anne Fontaine est hilarante, voilà.
Bah c'est dit, hein.
Non, mais c'est vrai, je le dis parce que
on
a tellement ri ensemble, c'est vrai, à travailler ensemble, à tout, mais c'est vraiment une joie, quoi. C'est une joie de travailler avec elle.
C'était une façon d'être en même temps très sérieux et puis d'aller dans quelque chose de jubilatoire.
C'est une belle déclaration, c'est une joie de travailler avec elle, tu vois.
Ah, mais vraiment.
Eh ben, moi, je peux pas en dire autant, tout gagnement.
Merci. Chers amis, laissez-moi vous raconter quelques belles histoires. Je vais raconter de façon revisitée des contes populaires qui, malheureusement, finissent tous mal. Il était une fois trois petits cochons gilets jaunes qui en avaient marre d'avoir faim. Le premier s'appelait Retraité, le deuxième Paysan, le troisième Chômeur. Ils en avaient marre de ne pas gagner assez d'argent pour vivre décemment. Du coup, tous les samedis, ils allaient crier leur colère dans la forêt. Le chef des animaux était un jeune loup prénommé Emmanuel qui avait promis beaucoup et retiré encore plus. Un jour, les trois petits cochons finissent par énerver très fort le loup Emmanuel qui arriva vers eux furieux. Pris de panique, le premier petit cochon, Retraité, se réfugia dans son fragile EHPAD au mur de plaque au plâtre.
« Cette fois, tu as exagéré, Retraité. Je vais m'enfler, essouffler et l'EHPAD défoncer. »
Les murs de l'EHPAD volèrent en éclats. Il prit son déambulateur et courut se réfugier chez son frère le paysan.
Comme malheureusement le paysan avait dû vendre sa ferme pour cause de surendettement, ils se réfugièrent dans la grange qui était faite de planches de bois peu solides.
« Vous ne m'échapperez pas, paysan et retraité, je vais m'enfler, essouffler, la grange défoncée !»
Les murs de la grange volèrent en éclats eux aussi, paysan et puis retraité partirent. Paysan prit retraité dans sa brouette et s'enfuit à toute hâte chez Chômeur, le troisième petit cochon. Chômeur les accueillit dans son logement social, un logement vétuste dont les fondations mal entretenues étaient déjà chancelantes.
« Vous ne m'échapperez pas, chômeur, paysan et retraité, je vais m'enfler, essouffler et le logement social défoncer !»
Le logement social s'écroula dans un abominable fracas. Contrairement au compte initial, le grand méchant loup avait gagné. Il avait gagné, oui, mais pour combien de temps ? Dépités, retraités, paysans et chômeurs ne croyaient plus en rien. Du coup, avec leurs nombreux amis, ils votèrent tous Marine Le Pen en 2022. Tout le monde était perdant. Le loup Emmanuel fut chassé de la forêt, les trois petits cochons n'étaient pas plus heureux. À présent, les amis, laissez-moi vous raconter la nouvelle version de Pierre et le loup. Il était une fois un jeune ambitieux nommé Laurent Wauquiez. Il avait pour ambition de sauver la France et d'arriver aux plus hautes fonctions. Un jour, il cria « Il y a trop de fonctionnaires, il y a trop de fonctionnaires, c'est ça dont la France est malade !» Inquiété par l'alerte, le gouvernement commença à réduire le nombre de postes de service public. Mais cela ne servit à rien, la France n'allait toujours pas bien. Quelques temps plus tard, il recommença. « Il y a trop de fonctionnaires, il y a trop de fonctionnaires, c'est ça dont la France est malade !» Affolé à nouveau, le gouvernement se dit que cette fois, Laurent avait peut-être raison. Il réduisit encore le coût de la fonction publique. Mais encore une fois, cela n'était pas vrai. Malgré la réduction des coûts, la France n'allait toujours pas. Plus tard encore, Laurent se préparait pour crier une nouvelle fois que les services publics devaient être amputés, plus encore que les dernières fois. Mais il n'eut pas le temps. Une crise cardiaque l'en empêcha. Précipité en voiture, on l'emmena à l'hôpital départemental le plus proche. Malheureusement, pour raisons budgétaires, l'établissement public avait fermé deux jours plus tôt. Une pancarte indiquait poliment d'aller à l'hôpital régional à 200 km de là. Au bout de 50 bornes, et pour de bon cette fois, le cœur de Laurent lâcha. Pour terminer sur une note joyeuse, laissez-moi vous raconter l'histoire revisitée de La Belle et la Bête. Il était une fois, au pays du show business, une jeune comédienne très belle qui vivait d'amour et de séries télé. Elle s'appelait Mélanie. Un soir, on lui dit... « Ne monte jamais jusqu'au château tout là-haut. On y produit à gogo, mais le seigneur des lieux est un monstre d'une cruauté aussi foudroyante que la laideur qui l'accable. Il est abominable et ses esclaves l'appellent Nagui. » Rongée par la curiosité, Mélanie monta un soir au château. Elle poussa la porte et entendit « Qui va là ? Faites du bruit !» C'était la bête. « Mon Dieu, on ne m'a pas menti. Il est d'une laideur repoussante. Et ses chaussures, je suis aveuglé par tant de mauvais goût !» s'écria la pauvresse. C'était trop tard. La bête enferma la belle. Mais, avec le temps, étonnamment, la jeune comédienne se prit d'amitié, puis d'amour pour l'infâme. De fil en aiguille, elle a eu une influence positive sur le monstre, qui, avec le temps, a appris à se faire aimer des pauvres en leur proposant un karaoké quotidien. Mais, bestial un jour, bestial toujours.
Eh ouais.
Il se pourrait très bien que la nature abjecte de la bête ne reprenne le dessus et qu'il impose de façon diabolique au pays un taratata spécial douleur avec un spécial Mylène Farmer. À demain.
Merci.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
L'au-delà, Jonathan Cohen, entre autres, à l'affiche de ce film Blanche comme neige, signé Anne Fontaine. Il y a également évidemment Isabelle Huppert qui est... Elle est dingue tellement elle est formidable, cette comédienne. On a l'impression qu'elle est capable de tout jouer.
Elle est troublante.
Elle est capable de tout faire, de faire passer des émotions incroyablement complexes en un regard. On la filme et on passe de plusieurs strates. C'est un millefeuille incroyable.
Et c'est étonnant parce que le côté le plus effrayant d'Isabelle Huppert dans le film, c'est quand on ne la voit pas.
Quand on imagine qu'elle est derrière. Ouais,
non, c'est quand on voit son ombre en train de fumer.
Ah oui, quand elle est dans sa cellule. C'est vrai que vous avez pensé ça ?
C'est juste son ombre et on la voit cracher la fumée comme ça. C'est le côté le plus flippant.
Mais c'est comme il y a les moments où Lou Delage est seul aussi, ce que je vous ai dit en aparté juste avant cette émission, le moment où on a le sentiment que tout bascule dans sa tête et dans son corps, c'est le moment aussi où elle est seule. Mais ça doit être un plaisir de réalisatrice d'avoir des comédiennes comme ça qui sont capables de dégager sans rien dire, juste en existant ou en jouant. Des sentiments et des idées et des pensées.
Bah oui, parce que ça, c'est même pas du jeu, c'est existentiel.
C'est du ressenti, ouais, c'est ça.
C'est comme quelque chose qui advient. Donc c'est ça qui est rare aussi.
Vous êtes en tournage déjà de votre prochain film, Police ?
Je viens de le finir il y a deux jours.
Vous enchaînez une force à chaque fois, c'est fou ça.
Omar Sy, Virginie Fiera, Grégory Gadebois, c'est ça ?
Oui.
Et là, on est dans de la comédie ou du
polar ? Non, on est chez la police.
Quel genre de police ?
On est sur... Ah bah des policiers, deux policiers, une policière de proximité. Et c'est un film métaphysique sur la police.
Jonathan, on vous retrouve dans une série Family Business, c'est ça ?
Oui.
Et quoi d'autre ? Cette série passera sur Netflix, pardon.
Absolument. Mmh. C'est la première série d'Igor Gottesman, qui avait réalisé Five, avec Gérard Darmon, entre autres, Julia Piaton. Et ou sinon, on va me retrouver dans, prochainement dans un film qui s'appelle Énorme. Voilà. Réalisé par moi. Non, j'ai quand même... réalisé par Sophie Le Tourneur avec Marina Foïs, on est en duo là-dedans. Et voilà.
Et au théâtre, Lou, à moins que vous vouliez nous parler de cinéma, mais ça fait longtemps que vous n'avez plus vu sur les planches.
Mais j'y retourne là.
Ah, voilà. Très bien.
Dites-moi. C'est vrai?
Dans quoi? Pourquoi?
Il va voir dernier coup de ciseau. voilà.
Non, dans une pièce qu'a écrite une jeune fille qui s'appelle Sarah Lorca. Donc c'est une création qui se jouera à la MC 93. Moi. Oui, ben voilà.
Ouais.
Et qui se jouera où, pardon ?
À la MC 93.
MC 93, très bien. Génial. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus à ce micro. Des excuses à présenter, Daniel Morin ?
Évidemment, désolé déjà pour Anne Fontaine qui a découvert ce matin le vrai profil de Jonathan Cohen. Un ado solitaire, aux goûts musicaux douteux. Un comédien tellement inculte à la fois et indéniablement toxicomane qui passe son temps à renifler. Fallait nous demander, à nous on le savait déjà, on l'avait déjà reçu. Désolé pour Michel Bouquet dont la carrière a été tout bonnement salopée par Jérémy Crédville quand il a dit que cet immense acteur s'était, je cite, « chié dessus » devant Anne Fontaine. Même Jonathan Cohen a été choqué. Sous le choc, il a arrêté de renifler. Désolé pour l'ORL de Jonathan Cohen qui, ce matin, a pu constater que son patient n'avait absolument pas à guérir. Ou bien Jonathan a-t-il choisi le mauvais praticien ? On vérifiera puisqu'il s'agit de Michel Simès qu'on reçoit jeudi.
Merci, à bientôt. J'espère, en tout cas, Lou, Anne, Jonathan, et encore bravo pour ce blanche comme neige. On va dire à voir à partir de l'adolescence. Voilà, mais qui est un film initiatique et beau et puis rempli de poésie, et chacun y trouvera aussi soit des réponses, soit des choses enfouies quelque part en lui ou en elle. On a largement le temps, on est presque à l'heure.
Ouais, c'est fou ça.
Philippe Bertrand.
Hey, laisse-moi rire. Hey, encore une minute.
Demain, Camille et non, José. Ah bon, d'accord, vas-y. Il est largement l'heure parce qu'il est 31, pardon pour ce retard.
Non, il n'y a pas de problème.